Bonjour Madame la Première ministre. Quel bilan faites-vous de vos 100 jours au pouvoir ?
Stabilité.
Renouer avec la stabilité politique, c'était notre priorité et c'est ce que nous avons, je crois, réussi à instaurer. Après les turbulences de ces dernières années, la population avait besoin de se sentir rassurée avec un exécutif stable aux manettes, sans décalage entre les promesses et les actions du gouvernement. Bref, un gouvernement auquel les Sri Lankais peuvent faire confiance. Cette confiance est née aussi du fait que l'économie est en bonne main. Qui plus est, nous avons réussi à imprimer la possibilité de faire la politique différemment que nos prédécesseurs. Voilà quels sont, je dirais, les principaux acquis de cette période.
Vos détracteurs vous dépeignent comme des idéologues enfermés dans une utopie marxiste-léniniste. Vous vous reconnaissez dans ce portrait qu'on brosse de vous et de vos collègues ministres ?
Cette référence à l'idéologie marxiste-léniniste concerne de prime abord la Janata Vimukti Peramuna, ou le JVP, le parti que dirige le président Dissanayake et qui est une composante de notre coalition au pouvoir. Cette coalition, le National People's Power, ou le NPP, est une alliance plutôt ouverte située au centre-gauche de l'échiquier politique. Au cours des 5 dernières années, la plateforme que le NPP a présentée a été essentiellement axée sur des solutions pragmatiques à apporter aux problèmes auxquels les gens sont confrontés au quotidien. Il n'est pas question pour nous de privilégier une idéologie quelconque, faisant fi des impératifs de l'ici et maintenant.
L'un de vos principaux succès a sans doute été économique, puisque l'économie sri-lankaise a renoué avec la croissance. Mais le mérite pour ce succès ne devrait-il pas revenir d'abord à votre prédécesseur, qui avait négocié un prêt de sauvetage avec le FMI ?
La négociation était certainement quelque chose que le président précédent avait entamé. L'accord avait été signé avant que nous n'arrivions au pouvoir. Mais je pense que nous pouvons être crédités de sa mise en œuvre. Premièrement, nous avons réussi à poursuivre le programme, tout en négociant avec le FMI, pour qu'ils acceptent d'assouplir leurs mesures d'austérité. Par exemple, nous voulions une protection sociale renforcée et l'ajustement du régime fiscal. Nous avons pu réduire la taxe sur la valeur ajoutée, sur les produits alimentaires de première nécessité. Nous avons aussi augmenté les salaires dans le secteur public. Le problème avec l'ancien président qui avait négocié l'accord, ce n'était pas tant l'accord lui-même, mais le fait que l'accord n'était pas soutenu par le peuple. Alors que nous avons le mandat des électeurs pour gérer cet accord avec le FMI. La morale de l'histoire, c'est que la stabilité économique ne peut être garantie sans la stabilité politique et sans le soutien du peuple pour l'application des réformes.
Le président Dissanayake, tout comme vous, vous avez été élu sur une promesse de rupture avec le précédent régime. Comment définiriez-vous votre feuille de route ?
On pourrait dire, pour simplifier, que notre feuille de route, c'est la réforme du contrat social entre citoyens et classes politiques au Sri Lanka. Les années post-indépendance ont été marquées dans notre pays par une lutte acharnée entre l'élite et le peuple. Cette tension de classe s'est manifestée de différentes manières, notamment à travers des conflits et des violences extrêmes qui ont ensanglanté notre histoire moderne. Pour moi, le mouvement Aragalaya, la grande révolution citoyenne de 2022, relève de cette même aspiration pour une société plus égalitaire. Notre feuille de route répond à cette aspiration en proposant de jeter les bases d'une relation renouvelée entre l'État et la population.
Ce renouvellement de la relation entre l'État et la population passe par une réconciliation nationale entre la majorité singhalaise et la minorité tamoule qui a subi des abus et des violations pendant la guerre civile. Vous êtes attendu au tournant sur ce terrain.
Je ne sais pas si vous le savez, lorsque la guerre civile dans le Nord a pris fin en 2009, le JVP s'est manifesté dans les heures qui ont suivi la fin des hostilités pour réclamer la création le plus rapidement possible d'une commission Vérité et Réconciliation sur le modèle sud-africain. Bien sûr, cette demande n'a pas été prise au sérieux à l'époque. Aujourd'hui, tant d'années après la fin de la guerre, nous craignons que créer un tel mécanisme n'ouvre les vannes de détresse en ravivant des souvenirs qui ont été enterrés. Qui plus est, ces victimes ont raconté leurs histoire aux différents comités d'enquête mis en place au fil des ans. Ce que les gens veulent aujourd'hui, ce sont des actions concrètes à partir des informations et révélations déjà enregistrées. Nous voulons commencer ce processus de réparation dès cette année, en nous appuyant sur des logistiques existantes, telles que le Bureau des personnes disparues et le Bureau de l'Unité nationale et de la réconciliation. Par ailleurs, il faut que nous nous assurions que tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique et de leur religion, puissent pleinement profiter des projets de développement lancés par le gouvernement central. Pendant trop longtemps, les minorités dans le Nord et à l'Est ont été tenues à l'écart des programmes et des politiques du gouvernement central. Nous œuvrons pour que, désormais, les projets du gouvernement central tiennent compte des besoins et des inquiétudes des citoyens qui vivent loin des bureaux des décideurs gouvernementaux.
La compétition entre l'Inde et la Chine pour asseoir leur domination sur Colombo n'est pas sans rappeler les rivalités anglo-russes en Asie centrale au début du siècle dernier. Comment votre petit pays insulaire vit cette nouvelle version du grand jeu ?
I think Sri Lanka has historically always, because of our location, we've always been in the middle of competing interests.
Voyez-vous, le Sri Lanka, historiquement, a toujours été, en raison de notre emplacement géostratégique, au centre d'intérêts concurrents. Les superpuissances ne nous ont jamais ignorés. Nous avons suscité la compétition. Nous avons été un partenaire très recherché par les acteurs globaux et régionaux. Nous avons donc l'habitude de gérer des intérêts concurrents, sans oublier de s'assurer de notre propre sécurité au milieu de ce tumulte. La Chine et l'Inde sont des pays avec lesquels nous avons des relations historiques sur plusieurs fronts, économiques, culturels, religieux, pour ne citer que cela. Il y a eu entre nous des palimpsestes de relations commerciales, beaucoup de mouvements, beaucoup d'allers-retours. C'est ça le Sri Lanka.
Many of these has been a lot of trade relations, a lot of movement back and forth. This is Sri Lanka.